Je prendrai ce matin un texte que nous avons abordé, que nous avons lu mercredi dernier dans l'étude biblique. Vous l'avez sur les bulletins, c'est un extrait du chapitre 14 de la lettre aux Romains. Mais avant d'aller dans la lecture, discutons un peu. Quelle église voulons-nous ? Dans quelle église voudrais-je venir au culte ? Dans quel genre de communauté chrétienne voudrais-je m'impliquer ? Quelles sont mes motivations pour participer à des activités, à la vie d'une église ? Et puis j'ai même envie de poser la question, qu'est-ce qui me fait envie dans une église, dans mon église ? Nous avons tous nos idées sur cette question à laquelle je répondrai prudemment. Quelques exemples de réponses possibles, de choses qui nous motivent, de rêves que nous avons pour notre église, pour mon église. Premier exemple, je voudrais une église pure, où on y chante de bons cantiques, où on y vient habillé dans un style qui me convient, tout le monde. Où on y fait des prières édifiantes, où on y rencontre des gens aussi sympas et corrects que moi. Des gens normaux, qui ne sont pas trop marginaux, pas trop différents de moi, pas trop étrangers. Une église où l'on ne se mêle pas avec n'importe qui, où l'on se livre à des activités bibliques, choisies, bien menées. Ce rêve d'une église parfaite, nous l'avons tous. Ce rêve d'une église où l'on se sent absolument bien chez soi, nous l'avons tous. Certes, on a besoin, nous avons besoin d'une église où l'on se sente chez soi. Un genre de sanctuaire, c'est-à-dire un lieu protégé, à part de ce monde, de cette société. Un lieu sûr, un lieu qui nous sert de refuge parfois, où l'on peut prendre du repos. Un lieu où on est bien. Nous avons besoin, il est vrai, d'un esprit maison, de relations simples, de confiance, sans prise de tête. Mais cependant, la lettre aux Romains, chapitre 14, verset 17, nous dit quelque chose d'utile. Verset 17 nous dit « Le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture ou de boisson. » Alors là, il faut que je m'explique qu'est-ce que vient faire la nourriture et la boisson dans tout ce propos dans lequel je vous amène. Dans le texte que nous avons lu mercredi dernier, il y est question de différentes opinions, différentes pratiques, et notamment certaines des pratiques alimentaires. Il existait un débat dans cette église, dans l'église des Romains. Certains pensaient qu'on pouvait manger des animaux, de la viande, qui avait été tués dans des temples païens. Même chrétiens, de toute manière, les temples païens, les idoles, c'est rien, donc on mange parce que c'est Dieu qui a créé cet animal et on le mange. D'autres pensaient que, comme ça avait été tué dans un temple païen, eux qui étaient chrétiens, ils ne voulaient pas s'associer à ce culte païen et donc ils ne voulaient pas manger de ces viandes. On voit là le débat dans lequel on pourrait trouver bien des parallèles aujourd'hui. Non pas forcément pour ce qu'on mange, mais c'est un peu les exemples que je vous ai cités tout à l'heure, la manière dont on s'habille, la manière dont on se comporte. Et ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que l'Église, le royaume de Dieu, c'est pas ça. Ce n'est pas un style musical donné. Ce n'est pas un style vestimentaire donné. Ce n'est pas une manière de s'exprimer telle et telle. Ce n'est pas le métier que l'on fait ou le statut social que l'on a. Ce n'est pas manger ceci ou pas cela. Ce n'est pas fêter Noël ou pas, ou quelle autre fête, telle autre fête. Même si ces choses ont de l'importance, ce dont je conviens bien volontiers. Je ne vais pas critiquer la convivialité, toutes les belles choses que nous faisons. Cependant, ce petit texte que j'ai choisi pour ce matin commence par nous dire ce que le royaume de Dieu n'est pas. Non, le royaume de Dieu ne consiste pas en une série de bonnes pratiques que chacun, en fin de compte, définirait à sa propre manière. Poursuivons nos idées. Certains souhaitent une église pure, une église où l'on qui colle bien à ses propres principes. D'autres voudraient une église que j'ai appelée tranquille. L'église tranquille, on y vient quand on veut. On y arrive le dimanche matin à l'heure qu'on veut. 10h15, 10h20, 10h30. On n'y prend pas d'engagement dans cette église tranquille. On n'y est pas dérangé par 36 principes dans cette église. On n'y est pas interpellé, exhorté ou repris, mais toujours encouragé, félicité, jamais brusqué. On n'y souffre d'aucune obligation dans l'église tranquille. On mène sa vie sans elle d'ailleurs. On l'oublie, cette église tranquille. On ne tient compte de ce qui y est dit que si ça arrange, que si ça ne heurte pas sa conception de la vie. L'église tranquille. Certes, certes, on a besoin de liberté, de souplesse. L'église n'est pas là pour faire peser sur nous un carcan de règles, c'est vrai. Un carcan ou toute une série d'obligations, de rites, de choses qu'il faut faire absolument pour être un bon chrétien, comme si notre avenir éternel en dépendait. Non, l'Église, ce n'est pas son rôle. Il est vrai aussi qu'on a besoin d'être encouragé, que ce n'est pas constructif de se faire toujours culpabiliser à l'Église, qu'on a besoin aussi d'avoir des choses positives qui nous sont dites. Il est vrai aussi qu'on ne peut pas toujours être au top, qu'il y a des fois où on est épuisé, où on est pris par d'autres choses et qu'on ne peut pas participer à la vie de l'Église comme on le souhaiterait. Cependant, la lettre aux Romains, chapitre 14, verset 17, a quelque chose à nous dire là-dessus. Je reprends ma lecture, que j'ai arrêtée bien vite. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Je relis le verset 17 depuis le début. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice. J'arrête la lecture. C'est une lecture à dose mesurée que je vous fais ce matin. Le royaume de Dieu, c'est la justice, ça veut dire quoi? Dans le contexte que nous avons, dans cette lettre de Paul aux Romains, je pense, d'après ce contexte, je pense qu'on peut dire que c'est une justice au sens d'une conduite juste, une justice recherchée dans nos comportements, dans nos paroles, dans nos relations, dans notre vie d'église, dans notre vie sociale en général et familiale. Ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que se dire chrétien, c'est vivre d'une manière juste, selon la volonté de Dieu. C'est vivre d'une manière juste dans nos relations avec autrui. Respecter les autres. Avoir le souci de la vérité, de l'authenticité. Et cela, chers amis, ne se fait pas tout seul. Ça demande des efforts. À moi en tout cas, peut-être pas à vous. C'est une lutte interne constante contre la nonchalance, contre la paresse. C'est une lutte interne constante pour rester dans une fidélité obéissante à la parole juste de Dieu qui nous enseigne comment nous conduire dans ce monde. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Ce n'est pas une église tranquille. Je voudrais une église libre. Troisième exemple, on y agit selon ses propres convictions, sans que quelqu'un nous contredise. On n'a pas besoin de l'avis des autres. Chacun fait son chemin. On ne s'embarrasse pas des opinions des uns, des états d'âme des autres. On ne perd pas son temps dans des discussions oisives et stériles. On ne se laisse pas influencer ou imposer d'autres points de vue par les autres. Chacun est libre d'agir selon ses propres convictions dans l'Église dont je rêve, cette Église libre. Certes, on a besoin d'être soi-même dans une Église, dans son Église. Il ne s'agit pas de revêtir un quelconque costume du bon chrétien, du chrétien parfait ou de la chrétienne formidable. On a besoin d'être soi-même, d'être authentique. On a la liberté d'avoir des convictions qui peuvent être différentes les unes des autres, même si les autres ne sont pas toujours d'accord. On a besoin d'avoir la liberté d'agir, de mettre ses convictions en œuvre. On a besoin que cette liberté soit respectée, y compris par ceux qui ne la comprennent pas. Cependant, l'apôtre Paul a quelque chose à nous dire dans la lettre aux Romains, chapitre 14, verset 17. Je vais reprendre la lecture de ce verset. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix. La paix au sens du bien-être, mais du bien-être partagé. Je ne peux pas prétendre être heureux comme ça, moi tout seul, et puis ne pas tenir compte de ceux et celles qui sont autour de moi. Il n'y a de paix que celle qui se partage, que celle qui se construit en commun, en harmonie, les uns avec les autres. Agir librement selon ses convictions, oui. Selon les convictions de notre foi en Dieu, mais en construisant la paix, en recherchant par amour la paix pour les autres aussi. Une église libre, que ce ne soit pas au détriment de la paix. Il faut tenir compte des autres jusqu'à modifier sa propre conduite, jusqu'à se priver de certaines libertés par souci de la paix commune. C'est le sens de quelques textes que nous avons lus mercredi dernier, que nous relirons cette semaine dans les groupes. Liberté, oui, mais aussi et surtout patience avec les autres, compréhension des autres, écoute des autres. Il faut être attentif aux autres, plein d'amour pour les autres, en recherchant le bien commun. Et Paul nous aide à définir la liberté. En tout cas, je vous propose simplement une définition par un contraire. La liberté n'est pas l'individualisme, où chacun fait ce qu'il veut en se moquant des autres. C'est moi qui compte et rien que moi. C'est moi qui compte, oui, mais mes frères et mes sœurs comptent tout autant. Voilà la liberté que l'apôtre Paul nous propose, que Jésus nous propose dans sa grâce. Quatrième rêve de l'Église, je voudrais une Église fondée. On y est sûr dans cette Église de ce qui y est enseigné. C'est biblique, c'est théologique, c'est sûr. Les pratiques y sont toutes justes, réfléchies. Tout y est biblique, théologiquement établi et défendable, sans faille, sans erreur. On y lit la bonne traduction de la Bible, la meilleure, la seule. Je ne vous dirai pas laquelle c'est. Et on y lit la Bible tout entière, sans rien laisser dans l'ombre. Elle ressemble un petit peu, cette église fondée, à l'église pure du début. Certes, il est indispensable pour notre foi, notre vie d'église, notre éthique, nos pratiques, il est indispensable que tout cela soit clairement fondé sur la Bible. Si nous prétendons être chrétiens, être une église chrétienne. Comme le dit la Bible elle-même, l'église est la colonne de la vérité. Nous avons ce devoir de fidélité à l'égard de la Bible, parole que notre Dieu nous adresse. Nous devons savoir ce que nous faisons. Nous devons agir en conscience, ne pas simplement faire les choses par vitesse acquise, par tradition, par souci de conformisme, faire comme les autres. Cependant, la lettre aux Romains, chapitre 14, verset 17, a quelque chose à nous dire à ce sujet. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Et la joie. La joie, comme quand on a compris que Dieu nous pardonne, quand on vient à lui sincèrement. La joie de recevoir sa présence dans nos vies. La joie d'avoir un lendemain, un avenir avec Dieu pour toujours. La joie de vivre une vie pleine de bon sens, de raison d'être. La foi que nous avons n'est pas une simple adhésion intellectuelle. C'est l'accueil de Dieu dans nos vies. La foi que nous avons n'est pas une simple connaissance, si grande soit-elle. L'apôtre Paul a écrit que la connaissance rend orgueilleux. On est à l'abri du risque, tout va bien. Notre foi n'est pas une observance obséquieuse, c'est-à-dire quand on essaye de suivre pas à pas, presque angoissé de désobéir tous les commandements qui nous sont donnés, qui nous tombent dessus, à la manière des, vous savez, ces pharisiens, c'est des gens qui sont cités dans le Nouveau Testament, des religieux juifs qui étaient très 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 soucieux de mettre en œuvre tous les commandements de la Bible. Est-ce que Jésus leur reproche ? C'est que finalement, ils avaient tué l'esprit de ces commandements. Nous ne voulons pas tuer l'esprit des commandements qui sont les nôtres, auxquels nous voulons obéir. Et je le mets en regard de la joie. Cette joie toute simple d'accueillir Dieu dans notre vie. Cette joie de recevoir un cadeau. Cette joie d'être connu et reconnu par le Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre. C'est cela qui est le royaume de Dieu. Nous avons besoin d'une église, certes, pure, certes, fondée, certes, où l'on est libre, mais en même temps, chers frères et sœurs, nous avons besoin, et même surtout, d'une église spirituelle. Reprenons encore la lecture du verset 14, non, pardon, je me trompe, 17 du chapitre 14 de la lettre aux Romains. Je vais tout lire cette fois depuis le début. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie données par l'Esprit Saint. Voilà la fin de la phrase. Je ne l'avais pas oublié. La justice, la paix et la joie sont produites par l'Esprit de Dieu dans nos vies. Avec l'Esprit Saint dans chacun de nos cœurs. Cette ouverture à Dieu dans l'intimité de nos forts intérieurs, cette capacité de recevoir l'action régénératrice, fructueuse, bienfaisante de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Voilà ce qui fera de notre Église l'Église rêvée. Et notre Église sera pure. Et notre Église sera pure et pourtant ne sera pas légaliste. Notre Église sera tranquille, on y vivra tranquillement, mais on n'y sera pas paresseux et on y vivra de manière juste. Notre Église sera libre, mais on s'attachera à construire ensemble la paix commune. Notre Église sera fondée, mais on y vivra en toute simplicité la joie d'être le peuple de Dieu. Voilà l'action que je réclame que Dieu fasse dans nos vies par son esprit. Nous avons besoin de cette action de Dieu et de son esprit pour vivre l'Église. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie données par l'Esprit de Dieu. Il y a le verset 18 que je n'ai pas encore lu. Je vais le lire. Celui qui sert le Christ de cette façon plaît à Dieu et les gens lui donnent raison. Voici le secret de l'Église, d'une Église rêvée. C'est l'Église où je suis au service de Jésus-Christ. Tout simplement. Pas au service de l'Église ou de ses responsables, qui ne sont eux-mêmes que serviteurs, mais au service de Jésus-Christ. C'est lui que nous devons servir dans nos vies. C'est de lui que nous recevons cet Esprit de Dieu qui produit en nous toutes ces belles choses. C'est avec lui que nous devons entrer dans l'Église et ressortir pour vivre notre semaine. C'est dans le souci d'être à son service que nous devons nous comporter dans l'Église, que nous devons construire la paix entre nous, que nous devons, et là je reviens au thème que je n'ai finalement jamais quitté, que nous devons nous accueillir les uns les autres et accueillir même ceux que nous qualifions de faibles, de différents. Qu'importe, il est aussi au service de Jésus-Christ. Il y a un petit encouragement à la fin de ce verset 18. Celui qui sert le Christ de cette façon plaît à Dieu et les gens lui donnent raison. Ou il y a d'autres traductions aussi, on est apprécié par les gens. Notre traduction dit ça. Prenons-le comme un encouragement. Prenons-le comme quelque chose qui va nous motiver. J'ai envie de plaire à Dieu. J'ai envie que les gens apprécient ce que je fais, ce que je dis. J'ai pas envie de me disputer avec les gens, ni encore moins avec Dieu. Nous avons besoin pour cela d'être habités par l'Esprit de Dieu pour être au service de notre Seigneur Jésus-Christ et pour être la joie de Dieu et un encouragement pour ceux et celles qui nous entourent. Je vous invite à la prière. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es généreux. Tu pourrais simplement nous donner une liste de choses à faire et puis voilà. Mais tu vas beaucoup plus loin. Tu inscris ta loi non pas sur un bout de papier des listes de choses à faire, mais dans nos cœurs. Cette loi, c'est celle de la justice. Nous voulons vivre tout d'abord en recevant ta justice, en nous en revêtant, en demandant à toi, en te demandant le pardon des péchés, parce que nous ne pouvons pas être justes par nous-mêmes, mais aussi en nous engageant dans une vie qui reflète cette justice, qui est équitable, qui est respectueuse, qui aime, qui construit. Nous te prions, Seigneur, pour que tu bénisses aussi la paix que nous construisons. Seigneur, bénis toutes les personnes qui sont les ouvriers dans ce chantier. Nous te prions aussi pour que tu places en nous, car c'est aussi un don de ta part, la joie. La joie de te connaître, la joie d'être connu par toi. Nous te louons, Seigneur. Merci pour cet esprit que tu nous donnes, qui produit ces choses. Et Seigneur, permets que nous soyons à ton service. Comme ce texte, la lettre aux Romains nous le dit. C'est un honneur pour nous d'être à ton service. Ce n'est pas une servitude. C'est un engagement qui fait fleurir notre vie. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'on peut te plaire par là. C'est formidable de prétendre te plaire. Nous te prions, Seigneur, pour que nous soyons aussi des gens agréables dans notre entourage. Parce que c'est aussi un des fruits que nous récoltons quand nous nous mettons à ton service. Merci pour ces encouragements de ta parole. Nous te louons, Seigneur. Amen.